Voilà. Alors, avant de céder la parole à Jérémy Zimmermann, je crois que mon collègue a pas dit que le Jolimet, qui est une petite coopérative pyrénéenne, a beaucoup aidé aussi pour ce sous-titrage. Ils font des sous-titrages pour malentendants. Ils ont corrigé beaucoup de nos erreurs de débutants. Donc, merci à eux.
Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je débarque comme ça, mais en fait, c'est parce que je l'ai déjà vu. On me confie la lourde tâche de stimuler une discussion avec la salle sur des sujets aussi, aussi pesants, aussi importants et sur un nombre aussi vaste de questions qui sont contenues dans ce que vous avez vu ici. C'est avec plaisir que je vais relever le défi. En commençant par poser la question, qui ici parmi vous utilise un produit ou un service d'une des compagnies suivantes? Facebook, la main, Google, Apple, Microsoft. Vous pouvez garder la main levée. Voilà, ça fait à peu près 100%. Et je vous cache pas qu'il m'est arrivé déjà de poser cette question-là et que le taux atteint régulièrement très proche des 100%. Parfois, on est plus de 1 à n'en utiliser aucun. Et cela démontre combien on a perdu de terrain sur ces questions-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il soit trop tard. Notre question, qui parmi vous, après avoir vu ce film, se dit qu'il va fermer son compte Facebook? Voilà, il y a plus d'une main levée. C'est déjà bien. Et ça montre que l'on peut inverser cette tendance-là. Après, d'ici à ce que tout le monde le ferme, il va falloir d'autres révélations. Il va falloir plus de temps pour analyser, pour comprendre et se poser ces questions-là. Mais voilà, ça montre que cette tendance n'est pas complètement impossible à inverser. Ce qui vient de se passer à l'échelle de 15-20 ans, c'est le... J'ai oublié de me présenter pour ce... Voilà, je suis Jérémy Zimmermann, je suis cofondateur de l'organisation citoyenne de la Quadrature.net. On défend les libertés fondamentales sur Internet. On documente les attaques sur nos libertés en créant des outils pour les citoyens, pour leur permettre de participer dans le débat public et essayer de faire changer les choses, justement. Donc on agit sur des sujets qui vont du droit d'auteur à la neutralité du net, de la censure des contenus à la protection des données personnelles. Et évidemment, ces temps-ci, la question de la surveillance est un petit peu bouillante. Donc voilà, c'est à ce titre que je suis dans le coin faire le Mario Kart. Donc ce qui s'est passé en 15 à 20 ans, c'est que sans s'en apercevoir, on est passé d'une ère de l'informatique amie à l'ère de l'informatique ennemie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, milieu des années 80, fin des années 80, les Commodore 64, les Amstrad, CPC, les ordinateurs Atari, etc. Toutes ces machines-là étaient fournies avec leur manuel d'instruction où très souvent, vous aviez le circuit dessiné. Et vous voyez la liste des composants, les uns après les autres. Vous pouviez regarder ce que faisait chaque composant. Et le fabricant vous invitait à soulever le capot de la machine pour regarder comment ça fonctionnait. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est comme ça que ces machines étaient popularisées. C'est comme ça que les uns et les autres, en apprenant à s'en servir, se retrouvaient à programmer pour ces machines et donc renforçaient ce que les économistes appellent l'effet réseau, où plus de gens utilisent quelque chose, plus sa valeur augmente. Et c'est comme ça que, historiquement, toutes les limitations technologiques de ces machines ont été repoussées. Année après année, certains se souviennent peut-être des demo makers et de ces gens qui faisaient du bling avec des pixels et qui faisaient véritablement avancer le chemin public en repoussant les limites de la machine. De là, on est passé petit à petit avec l'augmentation des capacités de calcul et de stockage et de transmission des informations. On est passé à l'ère des machines ennemies où repousser les limites de la machine n'avait plus trop d'intérêt en soi. Où on avait tellement de capacités de calcul et de stockage qu'on pouvait se permettre parce qu'à l'époque, on aurait considéré en gaspiller, mais en tout cas d'en dépenser plus pour plus de confort, plus de trucs jolis, plus de trucs à haut niveau qui permettent à l'utilisateur ou même au programmeur d'arrêter de se poser certaines questions sur qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire, à quel cycle. Et petit à petit, les entreprises qui fabriquaient ces composants, qu'ils soient matériels ou logiciels, se sont rendues compte qu'il y avait une valeur économique intrinsèque dans le contrôle. On a vu émerger ça principalement, d'abord avec les logiciels de la firme Microsoft, où quand vous installiez le système d'exploitation, on vous vendait avec le navigateur web, et puis le Media Player, et puis le logiciel de chat, etc. Et donc il y avait de toute façon qu'une suite bureautique qui fonctionnait. Donc on arrivait à vous fourguer de la technologie à partir du moment où il y en avait une qui était installée sur votre ordinateur. La firme Apple est allée beaucoup plus loin que ça, en verrouillant l'utilisation de son matériel et de son logiciel, avec ce qu'on appelle les DRM, les menottes numériques, les mesures techniques de restriction de l'usage, où en faisant semblant de faire plaisir à l'industrie du disque, ils ont bâti un système dans lequel on ne peut pas écouter tel morceau de musique que si on a le baladeur de la marque machin, que si on utilise le logiciel machin, lequel logiciel sert à faire les mises à jour, et on a un système dans lequel tous les logiciels et tous les matériels sont verrouillés les uns avec les autres. Si vous essayez de sortir de cette chaîne-là, bon courage. Donc, ça, c'est l'avènement, en fait, de cette informatique de contrôle. Une informatique amie, on est passé, je vous l'ai dit, à une informatique ennemie. Depuis ces premières tentations du verrouillage et de la capture du contrôle de l'usage de la technologie, les choses ont encore énormément évolué. Une des évolutions majeures au tournant des années 2000, c'est ce que certains appelaient à l'époque le « software as a service ». C'est le fait que vous n'ayez plus besoin d'exécuter le logiciel sur votre ordinateur, mais que vous puissiez à peu près, de façon transparente, exécuter un logiciel sur un ordinateur distant, ce que vous faites au travers d'un navigateur web. Quand vous accédez, par exemple, à Gmail, en fait, vous exécutez un logiciel complexe qui est en grande partie stocké sur le serveur de Google, en partie dans votre navigateur web, mais dont le contrôle est clairement situé chez Google, aux États-Unis. Et donc ça s'est vendu sous le concept fumeux, sans mauvais jeu de mots, du cloud. Donc ce cloud qui est très, très pratique, très serein, c'est joli, un petit nuage blanc. N'allez pas vous poser de questions, faites confiance au cloud. Vous savez pas où sont stockées vos données, c'est pas un bug, c'est pas un problème, au contraire, c'est une fonctionnalité. C'est le cloud. Le cloud n'oublie jamais. Le cloud n'efface rien. Le cloud est votre ami. Et donc ça, c'est l'évolution la plus récente où on vous dépossède de la connaissance même d'où sont stockées vos informations. Et ça, c'est associé avec cette tendance à miniaturiser les ordinateurs. Maintenant, on a tous dans la poche un ordinateur que certains sont encore assez naïfs pour appeler un téléphone. On a tous dans la poche un ordinateur qui est, là personnellement, c'est l'ordinateur le plus puissant que j'ai jamais possédé. C'est un truc à 4 cœurs, qui fait 4 fois 1200 MHz, c'est un truc débile en fait. Enfin, c'est énorme en termes de capacité de calcul. Et donc maintenant, on a ces ordinateurs dont on ne peut plus enlever les vis pour soulever le capot et regarder ce qu'il y a dedans et comprendre ce que sont les composants. On a ces ordinateurs dont tous les composants sont maintenant soudés sur une seule et même bus, dans un seul et même circuit. Ou si l'on voulait physiquement dire, oh, tiens, non, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas voir le Wi-Fi, on ne peut plus. Si on voulait se dire, aujourd'hui, je ne vais pas émettre ou recevoir de données, on ne pourrait plus. Et dans lesquels il y a cette fameuse puce qui s'appelle le baseband, qui est la puce qui émet et reçoit des ondes. Donc qui permet à la fois de parler, d'émettre des données, d'envoyer des SMS, etc., qui est maintenant à l'intérieur du microprocesseur lui-même, qui est en quelque sorte un ordinateur dans l'ordinateur, avec un système d'exploitation dans cet ordinateur dans l'ordinateur, et qui se comporte exactement comme des boîtes noires. Personne n'a accès à ces spécifications, à part leur fabricant. On ne peut pas savoir ce que font ces puces. On a très sérieux doutes, ou en tout cas très sérieux pressentiments, sur le fait que ces puces puissent être activées à distance. Et donc, activer à distance le baseband, ce serait pouvoir demander à cette puce d'accéder, je sais pas, à votre micro, à votre clavier, à votre caméra, ou à des choses comme ça. Et donc, sans s'en rendre compte, parce que c'est cool, parce qu'on aime bien tous les petits appareils au coin rond, qui brillent, qui font, qui coulolent, et qu'on est tous, on est tous très sensibles à cet aspect du confort d'utilisation, on se retrouve avec, dans nos poches, des ordinateurs qui sont nos ennemis, qui sont fabriqués pour contrôler l'usage que l'on en fait, qui sont fabriqués pour nous interdire de comprendre comment ils fonctionnent, et pour, par défaut, stocker toutes nos données personnelles, toutes nos vies, ailleurs que chez nous, ailleurs qu'en France, sur les serveurs de ces entreprises américaines. Alors, je connais la chanson, je vais peut-être laisser ça d'ailleurs pour les sessions de questions-réponses, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'ils n'ont rien à cacher, on va y revenir. Mais ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, Suite aux révélations de ce jeune homme qui a fait le choix de vie, de renoncer à sa maison, à sa famille, à sa petite amie, à son boulot, à son salaire, parce qu'il avait quelque chose à nous dire. Vous voyez de qui je veux parler, il s'agit d'Edward Snowden, qui a fait ce choix de vie, qui, sans doute pendant tout le reste de sa vie, qui sera du coup peut-être beaucoup plus courte qu'elle n'aurait pu l'être, s'endormira avec un petit quelque chose derrière l'oreille qui lui recommandera d'être vigilant ou de dormir que d'un œil. Ce bonhomme était espion senior. Toute sa vie a été un espion. Il est un patriote, défend les États-Unis contre leurs ennemis intérieurs et extérieurs. Et il s'est aperçu que dans sa façon de combattre les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, les États-Unis étaient en train de violer tous les principes fondamentaux sur lesquels ils étaient basés. Ce qu'Edward Snowden nous a montré, c'est des éléments d'analyse qui nous permettent de voir le monde tel qu'il est. Jusqu'avant ces révélations, jusqu'à il y a 6 mois, jusqu'à il y a 1 an, lorsque nous parlions de ces choses-là, lorsque nous évoquions une surveillance de masse des citoyens, on se faisait traiter de fous, de paranoïaques, de conspirationnistes, de chapeaux en tinfoil. Et en réalité, on est en train de s'apercevoir que la réalité est bien pire que ce que l'on imaginait. Donc Edward Snowden a fait ce sacrifice pour que nous puissions apprendre et pour que nous puissions voir le monde tel qu'il est. Glenn Greenwald, journaliste américain basé au Brésil, à qui Snowden a accordé sa confiance pour orchestrer ses révélations, a dit il y a quelques semaines que le gros des révélations était à venir. Ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'était le petit morceau. Mais ce que l'on a vu jusqu'à présent dessine un tableau dans lequel les entreprises que vous venez de voir citées dans ce brillant documentaire ont été prises la main dans le sac, à participer pour le compte du gouvernement américain à des violations massives de nos libertés individuelles. Ce sont des dizaines, des centaines de millions de citoyens dans le monde qui ont été espionnés proactivement, non pas parce qu'il y avait un soupçon, mais parce que c'était possible. Et du point de vue du général Keith Alexander, qui est chef de la NSA depuis 2007, je crois, ça ferait presque sens. À partir du moment où on a la capacité technologique à espionner le monde entier, il faut espionner le monde entier, parce que nos ennemis sont là. Nos ennemis font partie du monde entier. Vous voyez donc la spirale paranoïaque dans laquelle est engagé le gouvernement américain, dans lequel le gouvernement américain a d'ailleurs entraîné dans son sillage une bonne partie des gouvernements occidentaux qui ont les moyens technologiques de se livrer à ce type d'activité. Et c'est ça aussi que révèlent les documents publiés par Greenwald et fournis par Edward Snowden. Donc ces entreprises se sont fait prendre la main dans le sac, à participer, volontairement ou non, ça n'est même pas la question. Ce que l'on a constaté depuis, c'est que le droit américain est architecturé de telle façon que, quelle que soit leur volonté ou non de participer avec la NSA, ces entreprises n'ont de toute façon pas le choix. Avec les National Security Letters du Patriot Act, les autorités américaines peuvent les forcer à leur donner absolument n'importe quoi en les obligeant de ne jamais en parler sous peine d'aller en prison. Il suffit de prendre un gars comme ça au milieu de la boîte dont on sait qu'il a les accès et lui dire « Toi, Coco, tu vas nous donner les accès, sinon c'est prison, et si t'en parles, c'est prison. » Donc ça, plus le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, et sa loi l'amendant en 2007, je crois, qui instaure un tribunal secret, qui rend des décisions secrètes à partir d'interprétations secrètes du Patriot Act, et qui n'a jamais refusé à la NSA un seul de ses comportements. Ça, cumulé avec le programme Bull Run, dans lequel la NSA dépense 250 millions de dollars par an pour aller saboter une par une toutes les technologies commerciales qui permettent de sécuriser ses communications sur Internet, parfois en introduisant des bugs dans les algorithmes de chiffrement, parfois en subtilisant tout simplement les clés, parfois en affaiblissant consciemment la qualité de cette protection. Ce sont toutes les entreprises américaines qui sont potentiellement concernées. La conclusion que l'on peut tirer de cela, c'est qu'on ne peut pas, je dirais on ne peut plus, pour peu qu'on y ait fait confiance un jour, on ne peut pas faire confiance à ces entreprises américaines, pour protéger nos données personnelles. On ne peut pas leur faire confiance, point. Et pourtant, vous le voyez, près de 100% d'un échantillon qu'on va considérer comme représentatif de population est directement dépendant de ces entreprises pour protéger sa vie privée, pour protéger ses communications, pour protéger ses petits secrets. Alors certains vont se dire « Oui, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est quand même très pratique tout ça, et que après tout, c'est un équilibre à trouver. S'il faut abandonner un droit fondamental comme la protection de la vie privée pour avoir l'assurance d'être protégé contre les terroristes, alors ça vaut le coup. » Bon. Ce que l'on voit aussi dans les révélations de Snowden, c'est que ce pouvoir démesuré de ces instances ne concerne pas seulement les individus, mais également des compagnies comme le géant énergétique Petrobras au Brésil, ou l'ex-fleuron de l'industrie française Alcatel-Lucent. Donc s'il s'agissait de protéger le monde contre les terroristes, on sait que ce contrat a déjà été rompu, parce qu'il est utilisé pour donner aux entreprises américaines un avantage décisif sur leurs concurrents. Ensuite, on peut se dire, ouais, mais de toute façon, toutes ces données, on est noyé dans la masse, quand bien même ils auraient accès à tout ça, ils ne pourraient pas tout traiter. Et c'est vrai, c'est tout à fait légitime comme sentiment de se dire que c'est tellement énorme. Imaginez tout Google, tout Facebook, tout Apple, tout Microsoft. C'est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas faire sens de tout cela. Mais quand on pense à ça, on se dit qu'ils ne peuvent pas s'en servir en temps réel, immédiatement. C'est vrai que le volume de données est absolument considérable. Et deux éléments de réflexion là-dessus. D'abord, la France, au travers de cette entreprise Amesis, qui appartient au groupe Bull, a vendu en 2008 à la Libye de Kadhafi un système qui s'appelle Eagle, qui fait à peu près la taille d'un wagon, sur lequel on branche d'un côté l'Internet, et sur lequel ressort l'Internet de l'autre côté. Et qui permet, c'était sur la plaquette commerciale en 2008, « Nationwide Interception of Communication », l'interception de communication à l'échelle d'une nation. Alors la Libye, c'est un petit pays, la somme de leurs bandes passantes pour se connecter à Internet, ça ne doit pas être un truc complètement délirant. Mais en 2008, une entreprise française, peut-être le fleuron, peut-être qui se faisait le mieux en la matière à l'époque, pourrait même partir de ce principe-là, était capable d'analyser tout le trafic d'un pays comme la Libye pour permettre aux opérateurs, sur leur écran, de taper des mots-clés et de voir apparaître comme ça, comme un graphe social, tous les individus concernés par ce mot-clé, au travers de Facebook, Google, téléphone, SMS, mail, etc., 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 tous les protocoles de communication. Et ça, c'était 2008. Vous vous rendez bien compte ce que veulent dire 5 ans en termes d'évolution technologique. Donc, le traitement de données en temps réel sur des gros volumes, c'est peut-être pas si impossible à réaliser que ça. Mais, deuxième élément, peut-être encore plus important que ça, c'est ce qui peut être fait comme traitement a posteriori. On sait que depuis le 11 septembre 2001, depuis le Patriot Act en octobre 2001, la NSA s'est engagée dans cette direction à stocker toutes les données du monde. Donc partons du principe que ça fait en gros 10 ans. Imaginons qu'il ait fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. On sait que Keith Alexander n'est à la tête de la NSA que depuis 2007. William Biney, un des nombreux lanceurs d'alerte de la NSA, enfin pas si nombreux que ça, mais un des lanceurs d'alerte de la NSA, raconte que c'est véritablement dès 2001 qu'a été prise cette orientation. Accordons-leur le bénéfice du doute. Disons que ça ne fait que 5 ans que toutes les communications de Google et Facebook sont stockées par la NSA. Imaginez qu'un jour, pour une raison ou une autre, on vous cible. C'est ce jour-là que l'on va remonter le temps. C'est ce jour-là qu'on va faire pause et revenir petit à petit, 5 ans en arrière, pour regarder tous les gens avec qui vous avez parlé, tous les mots que vous avez échangés, et de là, dresser un profil qui sera des plus précis qui existent. Alors imaginez que vous entriez en politique et que votre adversaire ait accès à 5, 10, 15, 20 ans de vos communications, et par là, sache avec qui vous avez conspiré, avec qui vous avez couché, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous êtes engueulé. Imaginez que vous soyez une entreprise qui cherche à remporter un contrat contre une autre entreprise, et que tous ces employés, toutes les personnes qui participent au deal sont de cette façon-là mappées, et que vous savez avec qui ils couchent, légitimes, illégitimes, avec qui ils ont rompu une amitié, avec qui ils ont eu des pépins, etc. Vous imaginez l'avantage que ça peut donner dans un cadre économique comme celui-ci. Donc ça, c'est pour planter le décor et pour pas ouvrir la discussion sur une note trop sombre ou trop triste. J'aimerais vous faire remarquer que la résistance est en cours, la résistance est en marche, que cela fait maintenant 30 ans que Richard Stallman parcourt le monde et prêche pour le logiciel libre. Les solutions ne sont pas prêtes et ne sont pas clés en main. Vous n'allez pas aujourd'hui fermer votre compte Facebook et rouvrir autre chose qui vous apportera exactement tout ce que vous apporte Facebook. Déjà parce que certaines choses que vous apporte Facebook sont liées à ce modèle technologique et à ce modèle économique de l'hypercentralisation. Par exemple, aller chercher des gens pour coucher avec ou aller chercher vos anciens compagnons, compagnonnes, ça se dit, je sais pas, de classe. Ça ne se fait que parce que Facebook, c'est tout sur tout le monde. Soit dire quelqu'un de 25 à 35 ans sur Toulouse dont le statut marital est, c'est compliqué, qui a été dans telle école ou je ne sais quoi, ça ne peut se faire que parce que Facebook connaît tout sur tout le monde. Donc ça, c'est le genre de choses qui va être très difficile à refaire en utilisant des technologies qui seront respectueuses de nos libertés fondamentales. Mais ce que l'on est en train de constater, je sais que Toulouse est une ville d'ingénieurs, donc je me permets, c'est caricatural de dire ça. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est les design patterns de la surveillance, les design patterns du contrôle. Quand on parle de design patterns, c'est les motifs de conception, les principes de conception, qui sont ceux du contrôle. Et ce que l'on est en train de vivre, ce que l'on est en train de voir, c'est, excusez-moi si je ne mâche pas mes mots, mais c'est en filigrane, c'est le contour d'une société totalitaire à l'échelle globale. Donc on est en train de voir les design patterns de ce contrôle, généralisation de la violation des libertés fondamentales. C'est un, les services centralisés, hyper centralisés, comme Google ou Facebook. On sait que l'information, c'est une valeur économique, l'information, c'est du pouvoir. On sait au travers de l'histoire qu'une hyper-concentration des pouvoirs n'a jamais bien tourné. Et c'est ce que l'on est en train de construire. Donc, un, l'hypercentralisation. Deux, la fermeture des technologies. Comme ce que l'on a tous dans notre poche aujourd'hui, des ordinateurs dont on ne peut pas savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ou comme ils fonctionnent, et de la même façon, des logiciels dont on ne peut pas savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et comme ils fonctionnent. Troisième élément, l'illusion de sécurité. Un machin comme Skype, ou Facebook, qui va vous dire « Ouais, venez chez nous, c'est sécure !» Venez chez nous, vous serez en sécurité. Il y a des activistes dans le monde qui, pendant longtemps, ont pensé que Skype protégeait leur communication. Si ça se trouve, voilà. Si les services de renseignement de leur pays étaient dans des deals avec la NSA, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont probablement morts. Quand une entreprise vous dit « Faites-nous confiance, nous allons gérer vos clés pour vous, nous allons gérer le chiffrement pour vous », c'est exactement comme si une entreprise américaine avec qui vous n'avez pas de contact, qui a peut-être un bureau vaguement chez vous, mais une entreprise américaine vous disait « Faites-nous confiance, donnez-nous les clés de votre maison et on va vous rendre des services, ça va être gratuit. » Et un jour, vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien. Et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc cette illusion de sécurité, c'est comme quand dans Facebook, je sais pas, j'ai pas de compte Facebook, mais vous cliquez sur quelqu'un pour lui parler et vous ouvrez une fenêtre de chat et vous avez l'impression de parler uniquement avec cette personne. C'est légitime. Les gens ne sont pas tous ingénieurs, n'ont pas tous conscience de l'architecture sous-jacente d'un système de communication. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quand vous avez l'impression de parler avec votre correspondant sur Facebook, vous parlez avec votre correspondant, avec Facebook, avec la NSA, avec Booz, Hamilton, Allen, l'ex-employeur d'Edward Snowden, Raytheon, Palantir, et les centaines d'entreprises qui contractent pour la NSA. Donc ces design patterns, excusez encore une fois mon anglicisme, ces principes de conception du contrôle, c'est la centralisation, les systèmes fermés et la fausse sécurité. Eh bien en face, de la même façon, nous avons les design patterns, nous avons les principes d'ingénierie qui sont ceux de l'autonomie des individus et qui sont ceux de la liberté, qui sont ceux de la garantie de l'émancipation de ce contrôle. C'est un, les services décentralisés. Au lieu de mettre tous ces messages chez Gmail, que l'on soit un individu ou une association ou un cabinet d'avocats ou un journal ou une administration ou une entreprise, se dire que l'on va se faire son serveur. Alors ça ne doit pas être la décentralisation parfaite. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait que chacun ait son serveur de messagerie chez soi. Encore que ce serait l'idéal, ce serait l'aboutissement de cette logique de décentralisation. Mais entre tous chez Gmail et tous son serveur de mail chez soi, il y a des intermédiaires. Et donc à l'échelle d'une bande de potes, à l'échelle d'une chaîne de cinéma, à l'échelle d'une université, d'une entreprise, d'une administration, se dire que l'on va internaliser le stockage de ces données, c'est élémentaire, c'est essentiel. On pourrait parler ici de,
de souveraineté informationnelle des individus et des institutions. Ensuite, en face de ces systèmes fermés, dits propriétaires, il y a évidemment le logiciel libre. Ça fait 30 ans que Richard Stallman parcourt le monde avec son bâton de pèlerin pour nous expliquer qu'avoir la liberté de comprendre un logiciel et qu'avoir la liberté de modifier un logiciel pour l'adapter à ses besoins, en plus de la liberté de le copier et d'utiliser, n'est pas seulement un délire de nerd, mais est un impératif de liberté publique, est une question de société, est une problématique politique structurante pour l'avenir de nos sociétés basées sur l'utilisation des ordinateurs. Eh bien, on est en train de s'apercevoir, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que Richard Stallman avait raison. Et ce, depuis le début. Le logiciel libre est la condition sine qua non de nos libertés, lorsque nos données personnelles sont concernées. Le programme Bull Run démontre que toute entreprise basée aux États-Unis est potentiellement un cheval de Troie de la NSA lorsqu'il s'agit de protéger nos données personnelles. Point. Aucun programme commercial ne pourrait résister à la pression d'entités comme la NSA. Avec un logiciel libre, alors évidemment le logiciel libre ne veut pas dire sécurité. Il y a sans doute des bugs, il y a sans doute des fonctions malveillantes, probablement insérées par la NSA elle-même, dans des projets de logiciel libre. Mais le logiciel libre est la garantie de cette potentialité de reprise en main de l'infrastructure par les individus. Et c'est la seule façon d'y parvenir. Ensuite, le chiffrement. Oui, mais le chiffrement point à point. Le chiffrement, ça veut dire utiliser les forces de la nature, ça veut dire utiliser les maths pour embrouiller les communications et garantir que seul votre destinataire, avec sa clé, pourra les désembrouiller, pourra les déchiffrer. Le chiffrement point à point est différent du chiffrement Skype, que vous n'avez pas à faire confiance à un tiers comme Skype slash Microsoft slash NSA pour gérer vos clés à votre place. Dans le chiffrement point à point, vous gérez vos clés, votre destinataire gère ses clés, et seulement comme cela, vous avez la certitude que seul vous deux partagez un message. Et là, je vous entends déjà, enfin j'en entends déjà me dire « Ah ouais, mais quand même, ouais !» Enfin, c'est compliqué. Alors, une chose dont je suis convaincu, et on va en parler, ça fait trop longtemps que je parle d'ouvrir la discussion. Je promets, ça arrive. Les solutions pour inverser cette tendance à un totalitarisme global, basé sur le contrôle des individus et de leur comportement, passent évidemment par des volets politiques et législatifs. Il va falloir qu'aux États-Unis se bougent sérieusement pour révoquer leur Patriot Act. Il va falloir qu'au niveau de l'Union européenne, on se bouge sérieusement pour des dispositions sur la protection des données personnelles qui nous donnent des garanties concrètes. Il va falloir sérieusement qu'on garantisse la neutralité du net si on veut pouvoir continuer de bénéficier d'un Internet libre pour espérer influer sur le monde. Mais les solutions seront évidemment aussi technologiques. Il va falloir qu'on sorte les doigts des poches pour inventer ce qui manque dans notre couteau suisse des logiciels libres, pour inventer les nouveaux services décentralisés qui pourront rendre des services comme ce que peut faire Facebook ou Gmail, etc. Et ça, je vous assure que c'est sur les rails. Créer les nouveaux protocoles de chiffrement qui permettront aux individus de gérer leurs clés de façon plus facile, de façon plus souple. Et donc, il y a ces solutions politiques et législatives, il y a ces solutions technologiques, mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elles ne pourront jamais, arriver si l'on ne met pas en place également des solutions humaines, sociales, culturelles, dans lesquelles on fait l'effort de rompre avec nos habitudes, de reconsidérer ce qui est en réalité notre rapport à la technologie, de faire acte d'humilité, de se poser les questions, de remettre les choses que l'on considérait pour acquises en question, et de faire l'effort d'aller s'approprier ces technologies. En réalité, trop souvent, les gens considèrent la technologie selon l'axe « c'est facile, user-friendly, sympathique, avec les coins ronds qui me font penser que je suis très très intelligent », versus, de l'autre côté, les technologies qui sont trop compliquées parce que moi, de toute façon, j'y comprends rien et je suis pas ingénieur. Je suis convaincu d'une chose, c'est que cet axe est en réalité, d'un côté, les technologies qui sont là pour vous contrôler et de l'autre côté, les technologies qui sont là pour vous libérer. Mais les technologies qui sont là pour vous libérer ne vous libéreront que lorsque vous les approprieriez, que lorsque vous les prenez en main, que lorsque vous faites le choix conscient de les apprendre et de les comprendre pour les faire vôtres. Et je pense que tous ensemble, on peut arriver à cela et que, en quelque sorte, c'est pas comme si on avait le choix. On a une responsabilité morale ici. On a une responsabilité morale vis-à-vis de, d'Edward Snowden, qui est dans son recoin de Russie, vis-à-vis de Julian Assange, qui lui aussi a fait ce choix de vie et qui est aujourd'hui reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres, vis-à-vis de la mémoire d'Aaron Schwartz qui s'est pendu au début de l'année, vis-à-vis de Jeremy Hammond, de Weave, de Barrett Brown, qui risque des peines de prison pour avoir voulu faire éclater la vérité, vis-à-vis de Glenn Greenwald, de Laura Poitras et de Sarah Harrison, journalistes qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays sous peine d'être accusés de terrorisme, parce qu'ils ont voulu faire éclater la vérité sur ces choses-là. Et la liste s'allonge de jour en jour. On a une responsabilité historique, et je suis convaincu d'une chose, c'est que l'on peut inverser cette tendance, et j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Des commentaires, des trolls, des questions, des attaques personnelles. Allez-y, c'est avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Ça va ?
Ouais.
Non. Le risque de toutes ces technologies de surveillance et de toutes ces pratiques pour la démocratie sont bien réels. Il faut s'en préoccuper. Ce qui me dérange un petit peu dans l'affaire, c'est que l'on agite la surveillance du gouvernement, enfin des gouvernements, comme des chiffons rouges, et que on fait passer en retrait l'intérêt des entreprises à collecter toutes ces données et à les revendre. C'est un peu abordé dans le documentaire, mais je pense que au quotidien, c'est aussi un très grave danger pour nous, parce qu'au final, ces entreprises en savent beaucoup plus sur nous que nous le pensons. J'ai développé des outils de profiling, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Les gens n'imaginent pas les liens qui sont établis entre différents services qui apparemment sont totalement déconnectés, et on arrive à déclencher des actes d'achat, on arrive à orienter des coûts, et même à la limite, je pense que des entreprises sont capables, à l'heure actuelle, d'organiser des révolutions, pour contrer un gouvernement, par exemple, qui ne serait pas favorable. Et ça, c'est un véritable danger, à mon avis. Et il est un peu passé en retrait par Prism et compagnie, et il faut en parler.
Oui, je te remercie d'apporter cette précision, parce qu'effectivement, j'ai l'esprit embrumé par ces révélations, comme beaucoup d'autres. Plusieurs choses. Oui, je te rejoins complètement sur le profiling, et c'est ce que vous avez vu en partie dans Terms and Conditions May Apply. Je me souviens plus qu'il le mentionne ici, mais des chercheurs de l'université anglaise ont démontré que juste avec ce que vous cliquez sur les boutons « like » de Facebook, donc pas votre profil, toutes les informations, vous rentrez dedans, juste avec les likes que vous cliquez, de 80 à 90%, on peut prédire votre orientation sexuelle, si vous êtes marié ou non, et si vous fumez. Donc c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Et imaginez les boutons like, plus les informations que vous mettez, plus le contenu de vos communications, plus les pubs que vous cliquez, plus les pages que vous voyez, etc. etc., etc. Ça fait des profils qui sont toujours de plus en plus précis. Et je te rejoins là-dessus, personne n'a la moindre idée de ce que ça représente, et à plus forte raison de ce que ça représentera dans quelques années. Parce que si aujourd'hui on sait dire avec 95% de précision ton orientation sexuelle, si t'es marié, ton orientation politique, tes revenus, où est-ce que t'es allé en vacances, etc., etc., dans quelques années, de 95, ça passera à 99, puis à 99,9. Et on n'a pas la moindre idée de ce que seront les sociétés dans lesquelles certaines entités commerciales ou politiques auront la main sur ces informations. Mais ce que l'on voit avec les révélations de Snowden, c'est que la limite entre cette surveillance privée et cette surveillance publique, la surveillance par les entreprises et la surveillance par les États, est explosée, a complètement disparu. De la même façon que la NSA se sert de Facebook et de Google comme d'agences de renseignement partenaires, on voit que Edward Snowden a eu accès et avait cette clearance top secret parce qu'il était employé d'une entreprise qui s'appelle Booz Allen Hamilton. Et on voit se déployer cela, on avait déjà vu dans les spy files de Wikileaks. Ce sont des centaines d'entreprises avec ce que cela comporte. Une entreprise peut faire faillite, une entreprise peut mettre la clé sous le paillasson, juste disparaître. Qu'une entreprise peut virer ses employés sur un coup de tête et puis en employer d'autres. Ce sont maintenant des entreprises qui sont, je crois, la majorité du budget de la surveillance aux États-Unis. Donc cette limite que l'on avait traditionnellement entre d'un côté les espions qui sont là pour faire respecter l'intérêt de l'État et de l'autre, des entreprises qui ont intérêt à vous fourguer des trucs, est en train de complètement disparaître. Et ce que l'on voit, c'est une surveillance globale par tous ces acteurs-là, et le profil des uns va servir à la mission des autres, et inversement. Et cerise sur le gâteau, on voit maintenant que la NSA participe à espionner Petrobras et Alcatel-Lucent, et que donc même les espions traditionnels, si j'ose dire, de la surveillance étatique, se trouvent engagés dans des actions à vocation commerciale. Et ça, en complétant ce que tu dis, en quelque sorte, je te rejoins, il faut considérer cette surveillance privatisée de façon aussi importante que cette surveillance étatique, à plus juste titre, à plus forte raison, que les deux sont aujourd'hui quasiment indissociables.
On a parlé de l'exemple américain dans le film, mais il me semblait aussi que les Américains espionnent le reste du monde, parce qu'apparemment, c'est nous qui sommes leurs ennemis, mais est-ce qu'on peut parler aussi du fait que le gouvernement français surveille nos propres données à nous, Français, enfin, je veux dire, sur le sol français, donc c'est même pas une question de protection du territoire. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut évoquer le fait que, dans le film, c'est plutôt une bonne nouvelle, on dit qu'on va surveiller ceux qui nous surveillent, est-ce qu'on a un organisme qui s'occupe de surveiller notre gouvernement qui nous surveille?
Une très bonne question au pluriel. La première, les services de renseignement, par définition, existent dans des zones créées à cet effet qui sont un petit peu hors du droit. Donc savoir précisément ce que fait la DGSE en France, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Des demi-révélations dans le monde, à peu près au moment où il aurait été opportun de désamorcer le buzz que commençaient à générer les révélations sur Snowden, on dit que la DGSE aurait des centres d'écoute offshore, ce qui leur permettrait de faire ça en s'émancipant totalement du droit national, et c'est très probable. C'est très probable pour plusieurs raisons. Déjà parce que les États-Unis ont ouvert la voie à ces pratiques. Comme dit l'extraordinaire professeur Eben Moglen, je ne suis qu'un nain à côté d'Eben Moglen, et je vous invite vraiment, il faut un niveau d'anglais un peu conséquent, j'espère qu'il y aura des sous-titres bientôt, à regarder la série de 4 conférences qu'il est en train de donner à l'Université de Columbia, à New York, et qui s'appelle Snowden and the Future. Vous les trouverez sur le site snowdenandthefuture.com. Moglen parle des États-Unis qui exportent les procédures du totalitarisme. Où les États-Unis qui se présentaient en gardien des libertés, en exportateur des libertés, sont en train d'exporter ces procédures du totalitarisme. Non seulement en les légitimant et en les justifiant, en les pratiquant eux-mêmes, mais encore par les deals qui sont faits entre les différentes agences de renseignement. On sait, et on est en train de déballer ça, c'est un véritable écheveau qu'il va falloir démêler, que la NSA est en deal avec GCHQ, son homologue anglais, qu'elle est en deal avec le BND, son homologue allemand, mais on ne sait pas si BND est en deal avec GCHQ, on ne sait pas si la DGSE est en deal avec la NSA, si la DGSE est en deal avec GCHQ, etc. Il semblerait que ce soit une espèce de pelote complexe. Et ce qu'il apparaît, c'est que quand les services anglais de GCHQ n'ont statutairement pas le droit d'espionner les citoyens anglais, ils demandent à la NSA, qui elle a le droit d'espionner les citoyens anglais. Et peut-être qu'en échange, quand la NSA n'a pas techniquement le droit d'espionner les citoyens américains, en vrai, je pense qu'ils s'en fichent et qu'ils le font quand même, mais peut-être qu'ils vont tout simplement aller demander à GCHQ ou demander à GCHQ de faire du sale boulot à leur place. Et donc, on est en train de voir qu'apparemment, les services de renseignement sont tous en train d'en croquer, et de croquer de cette espèce de capacité universelle à capter les données. Ce qui est particulier avec la France, c'est qu'on est un point par lequel transite un grand nombre de données transcontinentales. On est le point de départ d'un grand nombre de câbles sous-marins transatlantiques, et que l'entreprise Alcatel-Lucent est pour beaucoup dans le matériel qui permet à ces câbles d'exister. Donc il y a gros à parier qu'on, par exemple, je ne sais pas, que l'on échange des informations sur ce qui transite par ces câbles que la NSA ne pourrait pas obtenir facilement, contre des informations que la NSA obtient quelque part dans le monde, comme par exemple en Afrique, où on a des opérations, et où notre renseignement humain est, au dire de certains, un peu en train de périclipper. La deuxième partie de votre question, c'est... Et alors, donc là, Votre première question est intéressante parce que ce qu'on entend très souvent dans la presse, c'est comme une espèce d'argument qui viendrait justifier un renoncement. C'est dire, oh, de toute façon, tout le monde le fait. De toute façon, tout le monde le fait, donc bon, c'est pas si grave que ça. Non, si tout le monde le fait, c'est encore plus grave. Ça veut dire que la situation est encore plus urgente et encore plus globale qu'on ne le pensait. Et replacez-vous dans un contexte qui serait celui, je sais pas, de l'esclavage, ou de l'interdiction du vote aux femmes, ou de la peine de mort. Et imaginez un seul instant qu'on puisse vous appliquer l'argument moral, non, mais tout le monde le fait. Pourquoi on abolirait? Pourquoi on changerait quelque chose? Non, le fait que tout le monde le fasse, et que ce soit de façon démontrable et démontrée, à l'encontre de la protection d'une des plus essentielles de nos libertés fondamentales, justifie que l'on s'élève contre ça, et qu'on cherche à inverser la tendance, d'où transition toute trouvée pour la deuxième partie de votre question. Qui contrôle les contrôleurs? Qui surveille les surveillants? Quis custodies ipsos? S'il y a des latinistes parmi vous, vous avez le droit de vous mettre des baffes à la sortie. Mais il y a un truc comme ça qui veut dire ça. En réalité, dans une démocratie, ceux qui surveillent les surveillants, qui surveillent les dirigeants, c'est la presse. C'est le quatrième pouvoir. C'est une presse indépendante et libre qui fait son travail de recherche, de recoupement de l'information, j'en entends qui glousse, vous avez raison, et qui protège leurs sources. Alors, on peut citer l'exemple de Mediapart, qui fait honneur au journalisme depuis quelques années maintenant, qui après seulement 2 ans, alors qu'il se dit qu'il faut 5 ans dans la presse pour arriver à rentrer dans ses frais, a réussi à rentrer dans ses frais. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Je suis en contact avec un grand nombre de journalistes, qui, quand ils prennent ces questions un petit peu légèrement, se prennent de ma part la question suivante. Non, mais vous savez protéger vos sources sur Internet? Et là, en général, il y a un grand blanc. Non, parce que, bien sûr, vous chiffrez vos mails. Et parce que vous n'utilisez pas Gmail. Et là, les journalistes se rendent compte qu'ils ont un problème aujourd'hui. Et je me suis posé la question, parce que j'ai vraiment 100% des journalistes à qui j'ai posé ces questions-là, qui, honnêtement, réalisaient qu'ils avaient un problème. Et je me dis, c'est bizarre, parce que je sais que 100% des journalistes ne réagissent pas à des valeurs éthiques. J'en vois qui sont là parce qu'ils ont un boulot, qui sont au chaud, que c'est confortable, qui font des copier-coller de l'AFP, et puis ils rentrent chez eux le soir picoler avec les copains. Et donc je me dis, c'est bizarre, parce que je sais que 100% des journalistes ne sont pas animés par des valeurs éthiques, et pourtant, 100% des journalistes à qui j'en parle se rendent compte qu'ils ont un problème de protection des sources. Et c'est récemment que ça a cliqué dans ma tête. Il y a un argument économique à la protection des sources. Ne pas être capable de protéger ses sources veut dire que les sources vont se tarir. Les sources se tarissant, ça veut dire plus de scoop. Plus de scoop, ça veut dire plus vente de papier. Et plus vente de papier, ça veut dire plus de boulot. Et c'est pour ça que les moins conscients et que les moins éthiques des journalistes à qui j'ai pu en parler ont peut-être cliqué dans leur tête que, oh oui, mince, ils avaient un problème. Donc, de là, ce que l'on peut faire, c'est soit monter des nouvelles initiatives de presse indépendante, soit soutenir celles qui existent déjà et les encourager. On peut aussi constater que une partie de ce qui a mu Wikileaks et ce qui a même présidé à la création de Wikileaks en 2006 était une espèce de constat d'un manque dans ce qui normalement est le rôle de la presse, pour aller chercher des informations, pour diffuser des informations secrètes, pour analyser des informations secrètes, etc. Et donc, une deuxième partie de la réponse à cette question, c'est qu'on assiste à une espèce de mouvement, sans doute impulsé par Wikileaks, dans lequel des individus, des organisations, dans des modes d'organisation qui ne sont pas ceux de la presse traditionnelle, vont se donner les moyens d'obtenir des informations secrètes, confidentielles, et de les révéler au public. Ce sont des dizaines de sites qui ont éclos après Wikileaks, des machins leaks, des on se souvient des Vatican leaks, ça c'était pas vraiment un site. French leaks, pour le coup, c'est lié à Mediapart. Il y a un Balkan leaks dans les Balkans, etc., etc. Et donc, cette boîte de Pandore est ouverte. Et si vous remontez avant la création de 2006, un texte d'une trentaine de pages qu'avait écrit Julian Assange à l'époque, donc les fondements philosophiques de Wikileaks, ce qu'il nous racontait déjà à l'époque, c'est que lorsque un gouvernement se cache derrière le secret, lorsqu'un gouvernement utilise le secret pour cacher des crimes ou des mensonges, il entretient de fait une paranoïa d'État. Il instaure un système paranoïaque. Et que de là, diffuser de l'information, faire fuiter de l'information sur le fonctionnement de cette paranoïa d'État, va augmenter la paranoïa et donc ajouter de l'inertie au système, et qu'idéalement on pourrait faire cela jusqu'à faire s'arrêter le système. Ajouter de l'inertie. Et quelque part, quand on voit la réaction de l'administration Obama aux révélations de Snowden, menacer à demi-mot de shooter en vol l'avion d'Evo Morales, faire pression sur les gouvernements d'Europe pour ne pas le laisser passer, lui révoquer son passeport au moment où il a posé le pied en Russie, pour mieux l'accuser ensuite d'être un espion russe, c'est la réaction de dirigeants qui sont acculés, qui ont peur. C'est des réactions qui veulent dire « le prochain qui fait ça, on le shoot ». Quand on voit les réactions de sénateurs et de politiciens de haut rang américains qui, au sujet d'Assange et au sujet de Snowden, n'ont pas hésité à les traiter de terroristes et à suggérer qu'il faudrait leur envoyer des drones, on sent que le pouvoir, on va pas dire vacille, parce qu'il n'en est peut-être pas encore là, mais montre des signes de faiblesse. Et ça tendrait à valider cette théorie philosophique élaborée par Julian et qu'il y a derrière Wikileaks. Un autre élément qui tendrait à valider ça, c'est justement l'ampleur de l'appareil paranoïaque d'État. On sait qu'il y a 950 000 personnes aux États-Unis qui sont habilitées « top secret ». Et qu'il y en a, je ne sais plus le chiffre, de 3 à 4 millions sur 250 ou 300 millions d'habitants qui ont le même niveau d'accès que celui du soldat Manning. Donc à avoir une inflation du nombre de secrets à gérer, ça veut dire une inflation du nombre de gens qui doivent gérer ces secrets, et donc une inflation du nombre d'entreprises privées que vous devez embaucher parfois à la hâte pour vous aider à gérer ces secrets, et donc une inflation du nombre des Edward Snowden. Donc un autre élément de réponse à cette question, c'est il faut plus d'Edward Snowden, il faut plus de Chelsea Manning, il faut plus de Barrett Brown, de Jeremy Hammond, plus de gens qui prennent des risques et qui font ces choix difficiles de vie lorsqu'ils constatent des crimes ou des injustices que de faire éclater la vérité. J'ai une question ici, une question là.
Non, j'ai déjà le micro. Si tu me permets une petite parenthèse technique, tu as dit tout à l'heure que des likes suffisent à créer un profil ou à le compléter. C'est incomplet. Il suffit d'afficher l'image like depuis LVCDN ou depuis n'importe quel autre truc. Si vous incluez sur votre site web des scripts externes ou des images externes, vous êtes des instruments de du profiling et de la surveillance globale, voire pire, complices. Donc faites bien attention à ce que vous incluez sur vos sites, sinon vous renforcez le système. Maintenant, la question, toi qui passes pas mal de temps auprès d'institutions, je sais pas combien de temps tu as passé à Bruxelles ces 3 derniers mois, est-ce que tu as vu un changement réel une fois passé les cris d'orfraie et l'indignation publique?
Alors, sur le premier point, oui, je ne faisais que faire référence à cette étude de chercheurs anglais qui, elle, se basait sur les clics, sur les likes. Mais c'est vrai, c'est tout à fait important. Et il m'a fallu longtemps, même pour le comprendre, alors que pourtant j'ai la tête là-dedans. Le seul fait de voir une page web contenant un bouton like, si vous avez un compte Facebook, dit à Facebook, j'ai vu cette page. Alors que ce soit la page d'un site en ligne vendant des sextoys, ou un article parlant de Marine Le Pen, ou Mein Kampf, ou je sais pas quoi, vous révélez ces informations de façon passive. Et je vous invite à installer des extensions pour Firefox comme... Alors, Ghostory, elle n'est pas libre, mais il y a... Mince, comment s'appelle-t-elle ? Disconnect, je crois que nous avons des experts dans la salle. Disconnect ou NoScript, et d'aller sur un site complètement anodin comme lemonde.fr, et de cliquer pour voir le nombre d'autres sites que lemonde.fr qui sont en train d'essayer d'exécuter dans votre navigateur un petit bout de logiciel qui va récupérer des données sur votre navigation. Très souvent, il s'agit d'agences de pub, mais parfois, il s'agit de sites dont vous n'avez, enfin, la plupart du temps, vous n'avez jamais entendu parler de votre vie. Sur lemonde.fr, il doit y avoir 10 ou 12 entités commerciales, ou plus, entités commerciales qui vont qui vont récolter des données sur vous et qui vont participer de vous ficher, de vous profiler. Donc merci pour ce commentaire. Et quant à la question, je vais essayer d'y répondre sans trop troller ni trop sonner comme un eurosceptique que je ne suis pas. Déjà à Bruxelles, oui, il y a la commission Liberté publique du Parlement européen qui organise une série d'auditions dans lesquelles les chercheurs les plus importants sur ces questions-là, comme Jacob Applebaum, comme Duncan Campbell, le mec qui avait à l'époque révélé Echelon, comme Ladar Levison, le mec qui a créé Lavabit et qui a dû fermer son service sous pression par les autorités administratives américaines qui lui demandaient de révéler tous les secrets de ses utilisateurs. Des gens comme ça qui sont amenés à témoigner devant la commission Liberté Publique qui va sortir un rapport, une résolution, un truc qui vaudra ce que ça vaudra, mais l'intérêt ne faiblit pas. Et à ces auditions, il y a un monde fou. Ensuite, la commissaire Viviane Reding, qui est de loin pas la pire, est allée aux États-Unis cette semaine pour aller parler de ces questions-là. C'est elle qui a drafté le projet de règlement sur la protection des données personnelles, qui était bourré de trous, mais qui était quand même une amélioration par rapport au statu quo et qui en ce moment est au freezer au Parlement européen. Maintenant, comment dire, les institutions européennes sont pas le meilleur baromètre que j'utiliserais pour mesurer l'impact politique d'une situation quelle qu'elle soit. Je pense que le contexte politique, c'est nous qui le faisons chaque jour. C'est en commentant chacune de ces révélations, en passant un mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réfléchissant à des solutions qui soient politiques, technologiques, sociales. C'est une responsabilité collective que nous avons de ne pas laisser retomber le soufflet et d'agir en fonction de ce que nous apprenons. Et là, nous allons mettre les instances européennes face à leurs responsabilités. Je vous rappelle qu'il y a des élections bientôt. C'est là que l'on va pouvoir faire peser notre voix, se faire entendre, demander des engagements concrets aux candidats pour agir une fois qu'ils seront élus. Donc je suis convaincu de ça, et à chaque fois qu'on a remporté des victoires au Parlement européen, ce n'était que comme ça. Ce n'était pas en attendant que les instances se saisissent de quelque chose, mais en créant le contexte politique qui rende inévitable pour eux de se saisir de ces questions. Et je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop optimiste, mais j'ai l'impression de sentir quelques signaux faibles qui me laissent à penser que les choses sont un petit peu en train d'évoluer.
Enfin, en attendant, quand même, aucun pays en Europe ne s'est proposé d'accueillir Snowden.
Alors, c'était votre question.
Bah oui.
Alors, j'y reviens dans un instant. Dans les signaux faibles que je vois, et encore une fois, ces signaux faibles ne viennent pas des politiques ou des institutions. Il y a le fait que, bah, comme je l'ai dit, 100% des journalistes à qui je parle de protection des sources me prennent pas pour un illuminé, mais se disent que, ah mince, oui, il y a un problème. Et les journalistes sont des relais d'opinion qui pourraient se poser sérieusement ces questions-là. Le fait, j'ai lu ça dans le Daily Mail, donc il faut vérifier ce chiffre, parce que c'est un journal de merde, que 11 millions de personnes auraient quitté Facebook récemment, et que 46% d'entre elles l'auraient fait pour des raisons de vie privée. Le fait que les journalistes continuent à écrire au moins dans certains pays sur ces questions-là, et que ça n'a pas fait pchit comme un événement médiatique qui dure 24 ou 48 heures et disparaisse. Le fait que les chercheurs en sécurité et les développeurs, quand on leur parle aujourd'hui, se disent « Ah ouais, là c'est vrai, il y a un problème » et on va chercher à faire des choses là-dessus, sentir un engagement réel de la part des technologistes sur ces questions-là, sont autant de signaux faibles qui me font penser que tout n'est peut-être pas perdu. Voilà, pas trop d'optimisme non plus. Ensuite, ça fait 12 ans depuis le Patriot Act que cette situation s'est développée, qu'on l'a plus ou moins laissé faire. Mais d'avis qu'il va falloir au moins aussi longtemps pour inverser la tendance, si on est capable de le faire. Ça veut dire que ça n'est pas en 6 mois qu'on va constater des résultats. Peut-être pas en 1 an, peut-être pas en 2 ans, peut-être pas en 3 ans. Peut-être falloir 5, 10 ou 20 ans. Et pour autant, ça n'est pas parce que on n'a pas le résultat en vue directement dans le viseur qu'il ne faut pas essayer. Alors sur la question qui est « Aucun pays européen n'a accordé l'asile politique à Snowden », la position officielle de la France, c'est « couché », horizontal. Et il y avait dans le Canard enchaîné un entrefilet 2 semaines après le début des révélations qui racontait que François Hollande, après avoir levé son petit poing et son sourcil publiquement contre Obama, a en coulisses remonté les bretelles de 4 ministres. Je crois que c'était Montebourg, Pellerin, Moscou et Fabius, qui avaient pris position et qui avaient vilipendé les US, en leur disant « il faut arrêter immédiatement. Un, ils sont nos partenaires et on est bien content qu'ils nous donnent des informations contre le terrorisme. Et deux, à les attaquer systématiquement, ils seraient capables de mesures de représailles. » Donc on est là dans un contexte géopolitique dans lequel les États-Unis n'hésitent pas à faire pression et très violemment sur les différents pays pour leur faire fermer sa gueule, notamment en laissant entendre qu'ils se tiennent tous par la barbichette et que justement à échanger des informations comme cela, c'est pas envoyer une note blanche et recevoir une note blanche, c'est échanger des teras, des pétaoctets, c'est échanger des accès ou des choses comme cela qui seraient peut-être tout à fait injustifiables. Donc c'est une espèce d'équilibre de la terreur, ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, qu'on ne doive pas essayer pour y arriver. Après, la question de l'asile politique à Snowden, j'étais à Berlin il y a deux semaines, quand est sorti, alors sont sortis d'affilée deux numéros du Spiegel auxquels ont contribué Jacob Applebaum du projet Thor, Laura Poitras, la réalisatrice documentariste qui a filmé Snowden à Hong Kong et qui est la deuxième personne qui l'a contacté avec Glenn Greenwald pour leur accorder sa confiance et organiser ses fuites. Andy Mueller-Magoon du CCC, Holger Blassum, je crois, et Marcel Rosenbach, qui sont les deux journalistes au Spiegel qui couvraient Wikileaks. Et il y avait une liste de 10 noms, en fait ils étaient 14 ou 16, à avoir contribué à cette couverture qui disait Das Nest, le nid, et qui entourait en rouge la station d'écoute illégale de la NSA sur le toit de l'ambassade américaine à Berlin, en face du Bundestag et en face de la chancellerie, avec un dossier de 16 pages pour expliquer combien c'était une violation totale de confiance et quasiment provoquer un incident diplomatique. Pour qu'une semaine après, la couverture d'après du Spiegel soit la tête de Snowden avec « Asyl für Snowden !» point d'exclamation, et non pas trois petits points ou point d'interrogation comme le ferait le Spiegel, qui est une publication assez respectable. En Allemagne, je ne sais pas depuis ce qui s'est passé, mais il semblerait que soit en train de se monter un momentum autour de ces questions. Des parlementaires ont très sérieusement proposé de faire venir Snowden comme témoin d'une enquête parlementaire. Et pour vous rassurer ou pas, voilà, apparemment, dans certains pays, ça a un petit peu plus d'effet qu'en France. Et on peut notamment mentionner le Brésil. Et ce discours que je vous invite à regarder de Dilma Rousseff à la tribune de l'ONU pendant 20 minutes juste avant Barack Obama, dans le même déplacement où elle a décliné une invitation à déjeuner chez Obama, dans lequel pendant 20 minutes elle lui met sa fessée, lui expliquant combien ces violations de liberté fondamentale sont injustifiables et combien elles auront un effet contraire à l'effet annoncé de lutter contre le terrorisme, etc. Là, c'était vraiment un grand, grand moment. Et également, combien la Mercosur, donc l'alliance politique et économique des pays d'Amérique latine, s'est retrouvée solidifiée, renforcée par ces événements, s'est réunie en urgence juste après que l'avion d'Evo Morales a été bloqué à Vienne, et s'est depuis réunie sur le thème de cette surveillance, et est en train, là une résolution de l'ONU là, qui est passée vite fait entre le Brésil et l'Allemagne, qui est un petit peu faiblarde, mais certains pays du monde sont en train de réagir un petit peu mieux que la France. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas.
Oui, il y a quelques années, le logiciel Emacs permettait d'envoyer des mails. Il y avait une option qui permettait de rajouter en signature des mots au hasard. Ces mots étaient du genre « bombe »,« terroriste », »,« président ». Bref, de quoi alimenter les robots ? Est-ce que, s'il y a des geeks dans la salle, est-ce que ce genre d'application, d'outils ne serait pas intéressant? Les robots s'adapteront, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de le tenter? Je vous remercie.
Intéressant. Alors, je ne suis pas sûr que par des choses aussi basiques qu'ajouter des mots-clés dans des mails, ça puisse marcher. Parce que, l'idée d'essayer d'inventer des outils pour contrer ces mécanismes de la surveillance est évidemment intéressante et fait partie des solutions technologiques que l'on peut essayer d'inventer en s'amusant. À titre personnel, je pense que c'est pas aussi urgent que des logiciels de cryptographie que l'on pourrait simplement utiliser et partager pour la plupart des tâches quotidiennes, mais ça vaut le coup d'essayer. Juste une chose, on sait déjà que leurs outils d'analyse ne réagissent pas simplement à l'apparence de mots-clés dans des flux. Le délire de Keith Alexander, quand il est arrivé chef du renseignement militaire en Irak en 2003, il a débarqué, il a dit « Bon, les gars, on arrête les conneries, maintenant on comprend tout ». Il parlait du SIGINT, Signal Intelligence, donc l'espionnage électronique. Il a dit « Maintenant on arrête de cibler telle ou telle source, on prend tout et on verra après ». Et donc il en a fait une nouvelle doctrine, et de ces données donc, collectées en masse, son délire à lui, c'est les graphes sociaux. Donc, faire apparaître les relations entre les individus. Donc, si vous dites ambassade, peintrite, AK-47, détonateur, etc., 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 mais que vous n'êtes pas même indirectement à trois niveaux connecté à quelqu'un qui est potentiellement de leur intérêt, alors peut-être que vous serez en dehors du filet. Peut-être qu'on va vous mettre dans une catégorie à part. Celui-là, on se le garde pour plus tard. Et dès qu'il apparaît quelque part près du réseau des gens qu'on considère dangereux ou subversifs ou intéressants pour quelque raison que ce soit, alors on va le traiter différemment. Mais la puissance de cette analyse par réseau, en croisant les profils, permet à mon avis déjà d'éviter le bruit qui serait généré par ce genre de mots-clés. Et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, pour vous rendre compte un petit peu à la fois du niveau de délire technologique et d'enfumage politique qu'il y a autour de tout ça, parce que je mentionnais Keith Alexander et ses graphes sociaux, il a fait appel à des gens d'Hollywood pour construire une réplique du pont de l'USS Enterprise, le vaisseau de Star Trek, et en faire son centre de commande, et faire venir des politiciens, les faire s'asseoir dans le siège qui est celui du commandant Jean-Luc Picard ou James T. Kirk, et les mettre devant des écrans sur lesquels défilaient des trucs probablement incompréhensibles, ou des graphes sociaux, ou des trucs qui zoomaient et dézoomaient dans tous les sens, pour les faire partir de là avec des petits éclairs dans les yeux, en leur disant que maintenant il nous faut quelques milliards de plus. Un petit peu comme quelqu'un vous ferait rentrer dans une boutique de tapis, et vous expliquerait que le fil vient de là, et que le dessin vient de machin, et que et vous ressortirez avec une hier ou une lampe sous le bras. J'avais envie de placer cette anecdote ici.
Oui, moi j'avais une question sur l'encadrement juridique des libertés fondamentales. Au niveau de l'Union européenne, il y a un vrai vide juridique et je me demandais du coup si le cadre législatif et juridique était aujourd'hui efficace et pertinent pour protéger nos libertés publiques, sachant que toutes les lois et dispositifs qui avaient été mis en place, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou même au niveau des États nationaux, devenaient obsolètes entre le moment où la loi avait été, où le projet de loi avait été fait et le moment où la loi était mise en place, du fait notamment de l'évolution de la technique.
Alors c'est une très bonne question qui appelle une réponse peut-être, mais une réponse sans doute plus détaillée que ce que je vais pouvoir faire ici. Déjà, en Europe, la protection de la vie privée, c'est un droit fondamental. C'est quelque chose que l'on a, que les Américains n'ont pas. Chez eux, c'est un droit commercial. Le 4e amendement garantit contre des search, des fouilles abusives, mais n'est pas à proprement parler quelque chose comme une liberté fondamentale. Donc on a, d'un point de vue des normes, on a un léger avantage pour essayer d'arriver à se protéger en tant que citoyen européen plutôt qu'américain. Ensuite, le règlement sur la protection des données en cours d'élaboration apporte des pistes intéressantes, mais des pistes intéressantes seulement dans la protection que l'on pourrait avoir contre ces entités commerciales. Donc se protéger contre Facebook, se protéger contre Google. Il y a un exemple superbe de ce jeune étudiant qui avait, je crois, 21 ans à l'époque des faits, Max Schrems, un étudiant en droit autrichien, qui a envoyé une gentille lettre à Facebook en disant « Cher monsieur Facebook, en tant que citoyen européen, j'ai ce droit au retrait des informations personnelles me concernant. » Non, c'est pas le droit de retrait, c'est le droit de consultation. J'ai le droit de vous demander quelles informations personnelles vous avez sur moi. Donc je vous remercierai de me les envoyer par retour de courrier. Facebook ne répond pas, il envoie un deuxième courrier, puis une lettre d'avocat. Au bout du compte, il est passé devant, je crois, 4 ou 5 juridictions pour finir en Irlande et obtenir de Facebook, après une guérilla juridique de 2 ou 3 ans, un DVD contenant 900 mégaoctets de données, dont tout ce qu'il avait effacé sur Facebook, prouvant que Facebook s'était assis sur son droit européen à effacer des données personnelles. Donc, mettre en œuvre des outils pour mettre en œuvre ce droit existant, ou renforcer ce droit existant, sont contenus dans le règlement, enfin dans une version du règlement qu'on aimerait bien voir apparaître, et le compromis qui est sorti de la commission de liberté publique et contient des trous mais qui ne sont pas impossibles à réparer et objectivement presque pas mal. Il y a notamment la notion de consentement explicite où une entreprise devrait être obligée à vous demander traitement par traitement, type de données par type de données, d'accepter que ces données soient collectées et traitées. Il y a des histoires de sanctions en cas de manquement, il manque un encadrement du profilage, mais on pourrait imaginer que des dispositions législatives viennent encadrer le comportement des entreprises. Le problème est qu'on est indirectement soumis au droit américain, et que le droit américain oblige ces entreprises à obéir à la NSA et à leurs contractants, sans vous le dire, et en étant exonérées de responsabilité. Donc quand bien même on arriverait sur le papier à un droit européen parfait, on ne pourrait pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, faire confiance à ces entreprises, même pour respecter le droit européen. Et là, c'est un vrai problème. Donc, dans la partie législative, moi, j'imagine bien qu'il pourrait aussi y avoir des dispositions d'ordre de la politique industrielle pour venir stimuler, aider le développement de ces solutions alternatives comme des logiciels libres, les systèmes décentralisés, le chiffrement point-à-point, voire imposer leur utilisation, par exemple, dans les administrations. Et donc, on peut imaginer que le droit vienne par d'autres biais que celui de la protection des données personnelles nous aider à bâtir une alternative. Oui,
je vais juste un petit complément par rapport à cette réponse.
Non, le micro aussi.
Plus fort, bien entendu.
Juste un petit complément. C'est qu'il ne faut pas trop avoir confiance dans des organismes... là où je suis un peu sceptique, c'est que ça nous protégera peut-être, si c'est parfait, les entreprises commerciales. Ça ne nous protégera pas, pour le coup, pour en revenir aux dérives totalitaires des gouvernements, des pratiques des services secrets et des services de police, puisque, par exemple, en France, la CNIL n'a aucun droit de regard sur les fichiers de police. Et encore moins, évidemment, sur les fichiers des services secrets. Voilà.
J'aurais pas dit mieux, moi.
J'aurais voulu revenir en fait sur le moment où l'ACTA a été voté ou a été rejeté par la Commission européenne. Et c'est un moment en fait où on a eu l'impression que nous, citoyens de l'Europe, on avait une influence sur les députés européens, à travers notamment le travail de la Quadrature et d'autres organismes. Mais on avait à disposition en fait à ce moment-là tous les outils et toutes les informations qui nous permettaient soit d'envoyer un mail à notre député européen, soit de faire pression sur un député en France. On avait vraiment l'impression de pouvoir faire avancer les choses à l'échelle individuelle. Est-ce que cette impression, elle était d'une part justifiée? Est-ce que c'était vrai que nous, petits, on a permis à ce que quelque chose comme ça se passe? C'est ma première question.
Oui, les trois fois.
Et la deuxième question, c'est est-ce que cette espèce de démocratie participative, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, on pourrait pas l'implémenter sous une forme logicielle quelconque, de façon à pouvoir présenter à nos députés ou nos représentants, quels qu'ils soient, des sortes de digest qui pourraient représenter ce que nous, on veut vraiment, en quelque sorte.
L'idée est séduisante. Sur la première partie de la question, oui et trois fois oui. ACTA, pour ceux qui n'étaient pas de cette bataille ou qui ne s'en rappellent pas, c'était un l'accord commercial anti-contrefaçon, le Anti-Counterfeiting Trade Agreement, une espèce d'accord commercial qui n'en était pas vraiment un, négocié en secret par 39 pays, et qui était fait depuis le début pour contourner la démocratie et imposer des règles absolument inacceptables, qu'elle est notamment transformer les acteurs d'Internet en une police privée du copyright. Les initiateurs de cet accord savaient pertinemment que ces choses-là ne seraient pas passées s'ils avaient tenté de les faire passer démocratiquement, et ont donc camouflé ça en accord commercial. On a bossé là-dessus pendant 4 ans. D'abord sur des communiqués de presse des négociateurs, ensuite sur une fuite publiée par Wikileaks, ensuite sur des fuites que nous avons publiées nous-mêmes. Et pendant 4 ans, nous avons analysé, documenté, transformé ces analyses en messages politiques, que l'on a décliné en vidéo, en images, en chansons, en conférences. On a rallié, on a bâti une espèce de réseau d'action informel, j'aime même pas parler de mouvement, mais une sorte de mouvement social, préparé les conditions d'un contexte politique dans lequel, le jour où la Commission a finalement signé l'accord, on a soufflé dans le sifflet, on a dit « c'est maintenant !» La procédure commence au Parlement, chargée. Et ça a marché. Les internets se sont enflammés, Les Polonais sont partis deux jours avant parce qu'ils avaient une information exclusive qu'ils nous ont pas transmise ou qu'on n'avait pas repéré, que leur premier ministre, deux jours avant la signature, a dit « Nous allons signer le machin !» Direct, ils ont fait une manif. Une semaine après, des manifs étaient organisées dans, je sais plus, 70 ou 80 villes d'Europe. Une semaine encore après, dans 300 villes d'Europe, je crois quasiment dans les 27 États membres, sans leader, sans parti politique, sans rien. Une vraie expression de la démocratie européenne. Et alors que tout le monde, six mois avant le vote au Parlement européen, disait que c'était complètement impossible, on n'avait jamais gagné contre Hollywood, Big Pharma et 39 gouvernements. On a non seulement gagné, mais gagné une victoire écrasante de 478 voix contre 39. Donc ça, c'est l'exemple qu'on doit garder en tête. On peut le faire. Ça nécessite une terrachier d'énergie. J'en ai chié des roues de chapeau pendant 4 ans, vraiment. Parfois l'impression de prêcher dans le désert, mais la certitude qu'on peut le faire. Et ça, c'est un exemple qu'on doit garder en tête. Voilà, si on s'en donne les moyens, si on s'en donne l'énergie, si on rallie, si on utilise les bonnes images de chats et des choses comme ça, on peut y arriver. Donc est-ce que ça veut dire que ça marche tout le temps? Certainement pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a repris le contrôle des institutions européennes? Certainement pas. ACTA était un vote parmi des centaines. Maintenant, sois sûr d'une chose, c'est qu'aujourd'hui au Parlement européen, tu prononces le mot ACTA, les gens tremblent comme une feuille. Quand Nelly Kroes proposait en interservice à la Commission européenne son projet de règlement sur les télécoms, le mot qui circulait dans les différentes directions de la Commission européenne, et alors qu'elle faisait face à une opposition assez importante, c'était « Non, on ne veut pas d'un deuxième ACTA ». Donc on les a marqués au fer rouge, sur la fesse, avec ce truc-là. Ensuite, la deuxième partie de ta question, est-ce qu'on peut inventer une solution technologique pour faire de la représentation d'une meilleure façon que la démocratie représentative, telle qu'on la connaît, telle qu'elle est en crise aujourd'hui? J'aurais tendance à te dire que je pense pas. Parce que la démocratie représentative, je dis pas que c'est le meilleur système au monde, mais avec tout ce qu'elle contient d'imperfections, c'est un petit peu comme la justice. C'est imparfait parce que c'est fait par des êtres humains. Et on a besoin de ces imperfections. Ce qu'on essaierait de faire avec des machines, avec un objectif de perfection, nous amènerait forcément dans quelque chose de pire. Comme quand on essaye d'automatiser la justice à coup d'Adopi, à coup d'entreprises qui se retrouveraient en police privée du copyright, etc. Des gens ont inventé un logiciel qui reprend ce principe de démocratie liquide. Il s'appelle Liquid Feedback. C'est des gens affiliés à ces partis dits pirates. Et l'expérimentent. L'idée est très séduisante. C'est de dire, moi je connais cette personne et je l'apprécie, donc je lui fais confiance, donc quand je lui délègue ma confiance pour des prises de décision. Et bon, outre le fait que ça n'a jamais été expérimenté à grande échelle avec succès, outre le fait que ça n'a jamais donné de résultats positifs sur des sujets qui n'étaient pas consensuels, donc sur des sujets très divisifs, le problème est que ça implique de faire confiance à une machine. Et ça rapporte un autre problème, qui est celui des machines à voter. Dans bien des bureaux de vote, dans bien des pays, on a remplacé la boîte transparente que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, dans laquelle on voit le papier tomber, et dans lequel n'importe qui peut choisir de rester pour compter les papiers, et avoir la certitude en son fort intérieur que le vote s'est bien déroulé et que le résultat affiché est bien le résultat de l'élection, et de la donner une légitimité à l'élection. Quand on remplace ça par une machine, tu mets une boîte noire entre la démocratie et toi. Et personne, même l'ingénieur le plus talentueux du monde, n'est capable de dire ce que fait un ordinateur à une milliseconde donnée, et ce qu'il fera la milliseconde d'après. Et des chercheurs ont démontré en long, en large et en travers que ces machines, principalement les Diebold aux États-Unis, utilisées dans tous les swing states, s'ouvraient avec un tournevis cruciforme, recevaient une clé USB, et avec leur système Windows, exécutaient un autorun point machin, qui modifiait la façon dont les voix étaient comptées, de façon quasiment indétectable. Donc utiliser un machin comme Liquid Feedback impliquerait forcément de faire confiance non seulement à l'ordinateur sur lequel il tourne, mais aux gens qui le font tourner et à tous les gens qu'il y a entre toi et cet ordinateur. Donc d'ici qu'on arrive à faire un système comme ça qui soit véritablement sécurisé, je me dis qu'on a peut-être plus de chances, même si ça paraît à peu près aussi inatteignable, de réparer certains éléments de nos démocraties. Et là encore, ça ne doit pas être pris comme une réponse optimiste.
Oui, moi j'avais une question. Finalement, dans le documentaire, on parle de l'espion, enfin des problématiques de vie privée, mais on ne parle pas non plus d'espionnage industriel. Vous avez parlé tout à l'heure d'Alcatel Lucent, et ça, l'argument de l'espionnage industriel ne pourrait-il pas être puissant, justement, pour l'Union européenne ?
Oh que si.
Voilà.
Oh que si, on voit qu'au Brésil, ce sont les révélations sur Petrobras qui ont mis le feu aux poudres. Ça et l'espionnage de l'ordinateur de Dilma. J'aime pas dire du mal de la presse, ou de la presse en général, ou de la presse en particulier, mais il se trouve que les révélations sur Alcatel-Lucent dans le monde, un partenariat assez bref entre Glenn Greenwald et Follow au monde, à mon sens, pas été, le partenariat n'a pas été très satisfaisant. Ce qui a été révélé par le monde, c'était, je crois, un ou deux slides en plus de ce qui existait déjà, dont un caviardé à 80% pour juste laisser apparaître Alcatel-Lucent. Et on avait l'impression que le travail était fait un peu par-dessus la jambe. On disait que des employés d'Alcatel-Lucent auraient été espionnés. On ne disait pas qui, en charge de quoi, on n'expliquait pas les conséquences, on disait pas on ne rappelait pas même l'importance stratégique d'Alcatel-Lucent dans le monde. Et bref, il n'y avait pas de viande dans laquelle planter ses dents, mais des phrases écrites au conditionnel qui laissaient planer le doute. J'ose espérer qu'on aura d'autres moyens d'accéder à ces documents dans un futur proche, peut-être pas grâce aux journalistes du Monde. Oui, j'espère qu'on n'aura pas manqué cette occasion pour la France, et que peut-être que des révélations similaires, un petit peu plus sérieusement recherchées et documentées, se feront jour dans d'autres pays de l'Union européenne, peut-être, pour impulser quelque chose là-dessus, j'espère. Oui. Et je pense, comme toi, je pense comme vous que c'est un ressort politique très fort, à mesure que l'on voit que les politiques ont tendance à se désintéresser des questions de liberté individuelle au profit de questions purement économiques. Faire le lien entre les deux ne peut qu'aider, je pense.
Donc, on voit bien que ce qui est exploité, en fait, la faille qui est exploitée, c'est le service que recherchent les gens, notamment par exemple pour les mails, on peut prendre comme exemple. Donc de là, j'aurais deux questions. La première, c'est quelle solution on a, parce que donc vous avez rapidement effleuré l'idée d'une décentralisation très très poussée, a priori. On voit bien que c'est compliqué aussi à mettre en place. Alors, si on prend un pool de 10 amis français, c'est pas forcément facile d'acheter un serveur, de le maintenir, etc. Donc ça, on voit bien que ça sera une solution certainement un petit peu à mi-chemin, avec quand même un fournisseur de services. Donc c'est déjà, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce qu'on peut faire là ce soir au lieu d'utiliser Gmail? Et la deuxième chose, c'est que dans le documentaire, donc toutes les grandes entreprises qui sont ciblées sont américaines, certainement parce que le documentaire est américain. Mais est-ce qu'on sait un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays? Notamment, je pense par exemple pour les réseaux sociaux, il y a des grands réseaux en Russie, en Chine. Donc on sent bien que ça ne sera pas forcément l'idéal non plus. Mais donc est-ce que vous pouvez aussi parler de ce qui se passe dans ces pays-là?
Alors, merci pour cette question, parce que ça me permet de revenir aussi sur la question de madame sur la France. Qu'est-ce que fait la France? La différence entre ce que peut faire la France pour espionner les citoyens du monde entier et ce que peuvent faire les États-Unis est grandement conditionnée par le fait que ces services, utilisés par une vaste proportion de la population, sont situés aux États-Unis. En France, on n'a pas Google, on n'a pas de Facebook, donc ça limite très largement les capacités d'interception de nos services. Sur le mail, c'est vrai que c'est pas trivial. Le mail, c'est des technologies parmi les plus anciennes d'Internet. SMTP et POP3 sont des protocoles qu'on aurait dû brûler sur un boucher quelconque il y a bien longtemps. Donc, installer son serveur de messagerie et le gérer, oui, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Changer de prestataire éventuellement pour en trouver un qui soit situé en France, où l'on espère qu'il y ait un petit peu plus de barrières à l'interception de masse. C'est la première étape d'une vague décentralisation. Je sais que des gens utilisent la poste.net, d'autres utilisent Gandhi, s'ils ont un domaine chez Gandhi. Donc ça me semble être déjà un tout petit peu mieux. Et puis c'est des acteurs qui a priori sont dans la même juridiction que vous, donc vous pouvez peut-être plus facilement un jour les traîner devant les tribunaux. Donc ça c'est vraiment l'étape 1 de la décentralisation, c'est ramener les choses dans son espace géographique et politique. Ensuite, à part configurer son serveur soi-même, Il n'y a pas grand-chose utilisable aujourd'hui. Maintenant, je peux parler de plusieurs projets qui semblent être sur le bon chemin. Il y a un truc qui s'appelle SecureShare, qui est un réseau distribué peer-to-peer, chiffré, et qui permet, de par son architecture, d'envoyer des messages, qui pourrait un jour être considéré comme une alternative au mail. Il y a GNUNET, le réseau chiffré et peer-to-peer du projet GNU, qui, je l'ai appris il y a quelques temps, possède, alors désolé pour les termes techniques, mais possède sa propre DHT, sa Decentralized Hash Table, qui est un moyen de faire de la découverte sur un réseau. Donc, trouver des gens avec qui coucher, par exemple, comme sur Facebook. Et cette DHT qui s'appelle GNS, pour le GNU Naming System, qui permettrait à l'intérieur de GNUNet de découvrir des services et de découvrir des individus, et donc de créer des systèmes de messagerie alternatifs. Ça, ce serait dans l'idée de remplacer le mail. Mais remplacer le mail permettrait, par exemple, de créer des plateformes de ça vers le mail standard pour toutes les andouilles qui utilisent encore SMTP et POP3, j'en fais partie. Ensuite, sur des choses peut-être un petit peu plus près de chez nous, enfin non, même pas plus près, il y a un truc qui s'appelle LEAP, L-E-A-P, qui est une pile de protocoles chiffrés pour faire des applis décentralisées. Alors, c'est apparemment super expérimental, et là encore peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on entendra parler de messageries qui se font au travers de LEAP. Un autre projet qui est cher à mon cœur, et là encore je ne saurais pas vous dire si ça va être the next big thing, si ça va marcher ou quoi, c'est le projet Freedom Box de Eben Moglen. Donc Eben Moglen, ce phare dans la nuit que j'évoquais tout à l'heure avec ses conférences modernthefuture.com, que je vous invite à voir à crowdsourcer les sous-titres. Maintenant qu'on sait faire ça à Utopia, suivez mon regard. Maintenant qu'on sait faire encore mieux à Utopia. C'est un projet initié par Snowden avec une vision qu'il a présentée en 2010. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec lui en quelques jours, en Pologne en quelques temps. Et il m'a avoué qu'en fait, il s'en voulait à mort, que cette vision n'ait pas été annoncée en 2003 quand Google a ouvert Gmail, mais seulement 7 ans après. Pour que 7 ans après, en début 2010, la Freedom Box ne soit pas déjà prête et déployée. Donc, on a potentiellement perdu du temps, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. L'idée, c'est de développer les logiciels libres qui permettront d'équiper un tout petit ordinateur comme il s'en vend aujourd'hui pour 30 euros, comme la Shiva Plug, comme le Raspberry Pi, et des machins qui font voilà, à peu près cette taille-là. Certains qui ont la forme d'une prise électrique que vous branchez sur une prise électrique et que vous oubliez. Donc, sans un disque dur qui craque au bout de 3 ans ou quoi. Et donc, l'idée est d'équiper ces tout petits ordinateurs de ce qui permet de réaliser les fonctions d'un serveur. Donc de dire, voilà, moi au lieu d'envoyer mes photos sur Flickr, je vais les envoyer sur ma Freedom Box, autoriser tel ami, telle personne, tel groupe à les regarder. De la même façon, je vais publier mon blog, mon micro-blog, mon micro-machin, et mes mails, les envoyer et les stocker à partir de cette boîte-là. Ça, c'est la vision initiale, où en fait, on reviendrait à cette situation qui était celle du milieu des années 90, où tous les nerds qui étaient connectés à Internet à l'époque, au bout d'un moment, se rendaient bien compte que c'était génial, qu'on pouvait pas seulement accéder, mais aussi publier. Et donc, prenaient un PC, vous vous souvenez les grosses tours beiges qu'on avait à l'époque, et le laissaient allumer dans un coin de chambre pour s'en faire un serveur. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont appris l'informatique, ont appris le modèle client-serveur, etc. Bon, très vite, les nerds ont été rejoints sur Internet par des gens normaux, et les gens normaux n'ont pas, à ce point, compris l'intérêt d'avoir son serveur chez soi et d'apprendre à gérer un serveur. Et c'est là que les Google sont arrivés, que Gmail est arrivé, et que tout le monde a vu les lumières, et comme des insectes dans une ampoule, ont foncé, et foncé, et foncé, et foncé. Donc Freedom Box, à un moment, j'ai vu Moglen le dire en ces termes, ce serait l'idée de faire le iPhone du service décentralisé. Un petit appareil qui serait joli et cool, qui deviendrait à la mode, et où en appuyant sur un bouton, tu pourrais dire ben « moi je veux partager des photos, partager des vidéos, avoir mes mails, avoir ceci et cela dessus », cliquer sur un deuxième bouton pour le dire « avant j'étais chez Gmail, hop, j'ai récupéré mes mails ici, et voilà, on passe à la suivante, et on n'a plus à s'en préoccuper. » On en est loin. On en est loin, mais pas si loin que ça d'une version 1.0, qui pourrait permettre aux hackers de commencer à bidouiller, et commencer à inventer les services décentralisés à greffer dessus. Donc la Freedom Box comme la plateforme qui permettrait aux uns et aux autres d'avoir une plateforme commune sur laquelle hacker des serveurs décentralisés je suis persuadé que les événements récents sont en train de booster le développement de la Freedom Box. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça dans 6 mois, dans 1 an, et que lorsque tu me reposeras cette question-là, j'aurai des éléments encore plus concrets que ça à apporter comme réponse. Et désolé pour tous ceux que la technologie embête, mais il va vraiment falloir que vous y mettiez.
Et en attendant, il y a l'associatif.
Et en attendant, il y a l'associatif, évidemment. Tous nos amis de Theta...
Il y a la
FFDN, il y a Theta Neutral. Ah, je ne sais pas si Theta Neutral fournit du mail, par exemple. Et FDN, je crois, ne le fait pas. Mais c'est vrai que là, il y a un boom.
Mais t'as Alter, mais t'as d'autres... Il y a un boulevard entre abonnés, tu peux partager.
Il y a un boulevard, effectivement, pour des associations de gentils hackers, hackers au sens étymologique de bidouilleurs et passionnés de la technologie qui aiment la contrôler plutôt que se faire contrôler par elle. C'est le sujet du week-end.
C'est le sujet du week-end à côté.
Ah, d'accord. Ah, bah, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a Capitole du Libre qui se fait à côté. C'est comment le nom de l'école encore le...
L'ENSET,
voilà. Donc l'ENSET, apparemment, ça va parler de ça pendant tout le week-end. S'il détend, d'ailleurs, tous les ans, quand se faisait ce rendez-vous, on parlait de Ubuntu, GNU Linux, nanana, mieux utiliser son ordinateur avec des trucs plus gentils. Là, maintenant, le thème, c'est reprendre le contrôle de ses données, si j'ai bien compris. Et donc ça montre que, voilà, dans ces communautés, où certains étaient peut-être sur le versant bisounours de la technologie. Ben là, tout le monde est en train de se sortir les mains des poches. Et on peut espérer que dans quelques mois, il y aura encore plus de solutions pour échapper à Google et tout ça. Et c'est vrai que des associations, dans le milieu associatif, des gens qui se mettraient à 10, 12 et géreraient un serveur en apportant des garanties. Autant qu'on puisse en apporter en disant voilà, on n'est pas Kevin Mitnick, mais on vous offre de stocker vos mails chez nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les mettre en sécurité, et voilà, ça sera sans doute, quoi qu'il arrive, bien mieux que Gmail slash NSA.
Bonjour, donc tu as beaucoup parlé d'Eben Moglen, hein, et je t'en remercie, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Et donc tu avais, la dernière fois que je t'ai vu, parlé de sa conférence Republica, donc qui était avant les révélations de Snowden d'ailleurs, et c'est là qu'on se rend compte que le type avait prédit exactement ce qui allait se passer. Et donc il parle à un moment dans la conférence de possibilité, donc en faisant du data mining, de contrôle de population. Est-ce que tu as plus de choses à dire là-dessus?
Merci de me poser la question et merci de rappeler effectivement que la conférence d'Eben Moglen à Republica 12 est absolument éclairante. Merci de me poser cette question, mais je m'aperçois que j'aurais dû moi-même parler de ça avant. Et je fais encore cette erreur alors que je m'en suis aperçu. Je pensais dans le moins. Bref. On parle de la protection de la vie privée comme ça en disant voilà, c'est un droit fondamental. Il se trouve que déjà bien des gens sont pas férus d'histoire ou de droit, et pour eux la notion d'un droit fondamental c'est quelque chose d'un petit peu vague. Et donc pour cela il faut rappeler ce que c'est que la protection de la vie privée et pourquoi c'est un droit fondamental, pourquoi la protection de la vie privée est essentielle pour une société libre. Ce que l'on constate, et tu vas voir combien c'est par la bande une réponse à ta question. Ce que l'on constate, c'est que lorsque les gens sont surveillés et se savent ou se sentent surveillés, les comportements changent. Les comportements changent. Tu vas pas dire que ton collègue, ton patron ou ton gouvernement est un ou une bande de pourris qui se livre à des crimes ou à des mensonges si tu sais que le fait de le dire va pouvoir être utilisé contre toi. Tu ne vas pas aller à une réunion d'un nouveau parti politique d'opposition si tu sais, là encore, que le pouvoir en place va immédiatement le savoir et pouvoir activer des représailles. Tu ne vas pas appeler un médecin pour lui poser des questions sur un avortement ou sur le HIV si tu sais que ces communications pourront être réutilisées par des gens qui soient tes adversaires politiques ou tes proches ou tes amis ou n'importe qui. Et donc ce que l'on voit, c'est que la protection de la vie privée, ce droit fondamental est un petit peu plus fondamental que les autres parce qu'il permet la mise en œuvre des autres libertés. Ce que je viens de décrire là, c'est liberté d'expression, liberté de rassemblement, liberté de conscience, liberté d'opinion, et voire même liberté de mouvement. Donc sans cette protection de la vie privée, on ne peut pas faire le même exercice des autres libertés fondamentales. Et ça en soi est une forme de contrôle social. quand les gens étaient écrasés par le poids de la surveillance du KGB ou de la Stasi, il y avait un parti politique. Personne n'avait, enfin, des gens ont sans doute essayé, mais personne n'a réussi à créer un autre parti politique et à le faire arriver par des voies sociales, politiques, à déstabiliser le parti dominant. Il y a sans doute des histoires, et sans doute des histoires dont on n'a jamais entendu parler, de gens qui ont essayé et qui se sont retrouvés.
Même dans un système multiparti, l'Italie, durant les années de plan, il y avait cette forme de contrôle social par la surveillance. Il n'y avait pas besoin d'un régime autoritaire.
Bien sûr, donc je ne sais pas que ça répond à ta question. Est-ce qu'il reste des questions ou est-ce qu'on va voir ?
Oui, une dernière. Est-ce que depuis Bruxelles, tu vois avec la crise européenne et les conséquences économiques, l'idée du logiciel libre qui se répand mieux auprès des institutions ? Merci.
Non, mais encore une fois, il ne tient qu'à nous. Là, il y a deux jours, a été annoncé que les comptes mail des eurodéputés se sont fait pirater. Ils utilisaient une espèce d'outlook web access, machin, qui nous venait tout droit des années 90, complètement moisi. Je pense que ça pourrait être utilisé à notre avantage. Mais là encore, il ne faut pas s'attendre à ce que les pouvoirs publics découvrent des choses d'eux-mêmes, mais il faut les mettre au pied du mur. Il faut créer le contexte politique pour les mettre au pied du mur. Donc je ne saurais pas te dire concrètement sur ce dossier d'utilisation des logiciels libres, ou de leur promotion, ou de leur intégration dans des politiques industrielles, la forme que ça pourrait prendre. Mais commencer par se renseigner sur le sujet, par en parler, par aller au contact de ces élus et leur en parler, et par leur poser des questions, bloguer là-dessus. Si vous connaissez des journalistes, leur dire « Hey, Coco, tu pourrais peut-être que ça va t'intéresser », etc. Donc déjà, ce que l'on peut faire à notre échelle micro, c'est quelque chose d'énorme. Si chacun, quand il quittait Facebook, expliquait à 10 personnes autour de lui pourquoi quitter Facebook, et que sur ces 10, il y en avait une qui quittait Facebook et qui ensuite allait en parler à 10 personnes, il faudrait peut-être 6 mois pour vider Facebook de la moitié de ses abonnés. Donc, gardez à l'esprit que l'objectif est macro. Basiquement, on est là pour changer le monde. Mais en ayant toujours la certitude que ce sont des actions à l'échelle micro qui, cumulées les unes avec les autres, permettent d'y arriver. C'est ce que l'on a démontré avec ACTA.
Petite dernière, bien pour la bête.
On peut continuer, hein, sinon je...
C'est comme tu veux.
Bah, il n'y a pas un verre d'eau. Ça, ou alors une bière.
Non, non.
J'ai l'impression que d'un côté, il y a la défense absolue de la vie privée, ce qui est forcément pour moi une bonne chose. De l'autre côté aussi, ce que fait Julien Chance, qui est la transparence totale pour les gouvernements et pour des entreprises, par exemple, au travers des révélations. Comment se situe la frontière entre les deux ? Qui décide ? Comment se fait ce partage de la transparence et de l'opacité ? De la transparence et de la protection entre les deux. C'est ce qui me paraît être une dualité assez,
en fait, c'est très
assez difficile.
C'est très simple, je te remercie de poser cette question, parce que c'est effectivement un spin qu'on a vu sortir. Beaucoup, on a vu des gens comme Hubert Védrine, Bernard Carayon, reprendre ce vocable quand les câbles diplomatiques ont été fuités par Wikileaks, disant « c'est une atteinte à la vie privée des États ». Et faire cet amalgame, faire ce mélange, qui est vraiment porteur de confusion, et on sait que c'est toujours une tactique de nos adversaires quand ils sont malhonnêtes, d'inverser le sens des mots, d'annuler le sens des mots. On se rappelle la novlangue dans 1984 de George Orwell. En réalité, c'est très simple, et la distinction est très claire. Les personnes publiques, les public servants, les serviteurs publics, donc les employés de l'État, sont par défaut dans leur fonction des personnes publiques. Donc ce que fait l'État, par défaut, doit être public et transparent, c'est un impératif démocratique. Les personnes privées, les individus sont privés et ont le droit fondamental à la protection de leur vie privée.
Ça devient compliqué avec les entreprises tiers qui, justement, utilisent ces données.
Quand c'est... la limite est très... est pour moi très claire. Quand c'est dans le cadre de tes activités... Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Merci. Merci.
Ah, tu le mérites, là. Vous n'avez jamais vu ça dans un débat.
Merci. C'est très clair. Quand c'est dans le cadre de tes fonctions, que tu sois membre d'une administration publique ou d'une entreprise, c'est ta fonction. quand tu quittes ta fonction, c'est ta vie privée. Ce qui se passe dans ta maison, dans ta chambre à coucher, ça te concerne toi. Une chose est claire, c'est que, et d'une, Julian Assange et Wikileaks, c'est pas la transparence totale, c'est révéler ce que l'on peut. Quand ce que l'on peut révéler expose des crimes ou des injustices.
On parle de Wikileaks, mais les Anonymous prônent le full leak, par exemple, et c'est un peu aberrant, ce genre de...
Alors déjà, les Anonymous, enfin, ça ne veut rien dire.
C'est
Anonymous, c'est des concepts et des codes que chacun peut s'approprier pour initier des actions dans lesquelles les uns et les autres peuvent se reconnaître et se rallier. Donc il faut vraiment se méfier de ne pas dire les Anonymous ceci, parce qu'un jour, il va y avoir une centrale nucléaire qui va exploser quelque part, et on va dire c'est les Anonymous. Tu vois où je veux en venir. Donc c'est aussi, c'est ouvert à toutes les manipulations. Parfois, tu vas avoir un truc signé Anonymous, mais qui va intéresser trois personnes, auxquelles trois personnes auront participé. Parfois, tu vas avoir un truc estampillé Anonymous, derrière lequel tu as 10 000 personnes qui vont participer à une action. Donc, on ne peut pas en savoir beaucoup plus que d'essayer de voir l'importance, l'impact d'une action et l'impact social d'une action qui se reconnaît derrière les codes et les symboles d'Anonymous. Donc, si tu me dis qu'une action suivie par 10 000 personnes a un jour prenait une transparence totale de tout et de tout le monde, je vais te dire, là, c'est grave. Si tu vois un jour un texte écrit avec un masque de Guy Fawkes qui dit « tout doit être transparent tout le temps », je vais te dire, c'est pas grave. Oups, quelqu'un dit une bêtise sur Internet, tu vois. Pour moi, la limite est vraiment très claire. L'État est transparent, point. Les personnes sont privées, point. Et c'est vrai que dans le cas d'entreprise, bah, c'est quand tu es au bureau, ce que tu fais au bureau, qui, s'il s'agit d'un crime ou d'un mensonge qui est caché par le secret, alors on peut se poser la question de soit le rendre transparent, soit le transmettre directement à la justice. Alors, on peut en prendre encore quelques-unes, j'ai eu l'eau, enfin, si vous voulez. Pendant 2-3 questions, il va me falloir une bière. Pire, un whisky.
Bonjour, oui, donc tu as dit qu'on avait le droit de balancer un troll, donc il y a aussi une question moi, qui je trouve qui revient souvent dans les discussions, c'est le comportement qu'on commence à voir chez certains acteurs du libre, d'avoir tendance à limiter ces gros centralisateurs de l'internet. Je pense en particulier à Ubuntu, qui propose maintenant dans ses dernières versions des publicités intégrées, des publicités ciblées, du profiling, de la récolte de données, et on ne sait pas, maintenant il y a des services de cloud, et quand on installe, ils nous proposent... On est carrément notre identifiant, donc quelque chose comme ça.
Oui.
La méfiance, elle doit venir de...
Je suis tout à fait d'accord. C'est même pas un troll, hein, c'est une réalité. Des entreprises de livres peuvent tout à fait, comme la première entreprise venue, avoir des réflexes centralisateurs ou à compromettre des valeurs éthiques dans un but de profit. Et il semblerait que ce soit depuis un certain temps le cas de Canonical, entreprise à l'origine d'Ubuntu. Pour autant, quand ces entreprises du libre font cela, on reste dans le cercle vertueux du logiciel libre. C'est-à-dire Canonical fait ça, tu peux prendre Ubuntu, prendre le code source de tout ce qu'il y a dans Ubuntu, virer un par un toutes les références à Amazon.com, à cloud ceci, cloud cela, et faire ta Ubuntu à toi, t'as le droit, qui virerait tout ça. Maintenant, ta Ubuntu à toi, tu sais qu'elle s'appelle Debian. Et Debian a cet avantage qu'elle est basée sur un contrat social. C'est donc des individus qui, ensemble, s'affairent à respecter 12 règles, qui sont des règles de bien vivre ensemble avec la technologie. Ils élisent chaque année un Debian Project Leader qui est en charge de faire respecter ce contrat social. Et donc, on a là une garantie supplémentaire, même juste une garantie, que l'on n'a pas avec une entreprise dont le but est le profit. Donc, plutôt que s'emmerder à forquer Ubuntu, utilisons Debian. La force du libre est que quand une entreprise a des comportements infects, mais qu'elle fait du logiciel libre, elle contribue quand même. Si EADS, pour ses missiles, a besoin de patcher le noyau Linux pour le rendre plus réactif en temps réel, machin bidule, ou d'ajouter des fonctions de ceci ou cela, ils sont obligés par la GPL de contribuer à leurs modifications, et ça leur coûte à peu près la même chose de faire leurs modifications en les contribuant au noyau. Et pour eux, c'est même plus rassurant parce que les versions suivantes du noyau continueront de contenir leurs modifications. Ils n'ont pas à chaque fois à le modifier. Donc, en faisant des missiles, ils améliorent le noyau Linux. Eh bien, je pense que c'est la même chose avec une entreprise comme Canonical, qui a contribué des choses en matière d'interface et d'intégration des outils qui sont déjà réutilisés par Debian et par d'autres projets. Donc, si Canonical devenait demain le prochain Google ou un truc, un fact comme ça, pour autant, leur contribution au libre y serait encore. C'est ça la force et la beauté du logiciel libre. C'est ce mécanisme juridique mis en œuvre pour faire respecter des valeurs éthiques et qui garantit que chacun peut contribuer, mais ne peut pas retrancher. Et donc, voilà, oui, il est temps de se poser ces questions-là. Je troll moi-même là-dessus depuis quelques versions d'Ubuntu auprès des gens d'Ubuntu.fr en leur disant « Alors, quand est-ce que vous repassez à Debian, les amis ?» Et ça, c'est en train de marcher, c'est en train de faire son chemin. On voit Capitole du Libre, je ne sais même pas si l'événement de demain va s'appeler Ubuntu Party. Si, il s'appelle Ubuntu. Même pas, tu vois. Il y a un an, c'était une Ubuntu Party, maintenant, c'est juste Capitole du Libre. Voilà. Est-ce que ce qu'ont contribué au Libre, les gens d'Ubuntu, c'est ce vent de fraîcheur qu'il y a eu dans nos communautés à mesure que sortait un outil plus accessible, plus intégré, qui venait séduire un public plus large que ce que l'on avait précédemment, et qui s'est immédiatement reflété dans les communautés. On a vu débarquer des hordes de gens qui avaient en moyenne 10 ans de moins que les vieux que nous étions, et qui organisaient des événements qui s'appelaient party et pas nerd machin. Et ben ça, on en a bénéficié, et on continue d'en bénéficier, et ça fait désormais partie de nos communautés, de nos identités, même si le comportement de cette entreprise change. Et c'est là qu'il va falloir aussi être intelligent et éviter les chasses aux sorcières et les guerres de religion. Et même les libristes les plus tolérants et machin, j'en vois qui parfois « Ah, tu utilises un Mac, gros con !» et tout. Genre, oula. Il va falloir faire venir les gens à nous, leur faire comprendre pourquoi les valeurs que nous défendons sont des valeurs humanistes qui portent en elles un projet de société et qui sont profondément politiques et qui sont une alternative au totalitarisme. En faisant ça au-delà de nos préférences technologiques, au-delà de nos certitudes, et de ne pas reproduire les schémas, les guéguerres Windows, Mac, les guéguerres VI, Imax, etc. C'est rigolo, c'est folklorique, mais il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça. On est, je pense, dans un moment de notre histoire où on a plus que jamais besoin de se dégager de ces a priori pour rassembler. Non, je sens comme une espèce de saleté de politicien. C'est terrible. Tuez-moi. Un coup de whisky.
Je crois que cette fois, on va arrêter pour ce
soir. Ah ben voilà. On va aller au bar de la Lune, boire du whisky.
Oui. Merci.
Bienvenue.